Et c'est toujours le 39-21 pour joindre le standard où Bastien et Fanny vous attendent. À présent, nous allons parler avec Nicole. Bonsoir Nicole.
Bonsoir Catherine.
Bonsoir. Alors, racontez-moi.
Je suis heureuse de vous avoir au bout du fil.
Eh bien, partageons ce bonheur. Moi aussi, je suis heureuse.
Voilà. Alors, je vous téléphone, je vais vous dire le motif. D'abord, parce que ce qui m'a charmée tous ces jours-là, c'est votre voix.
Merci.
Et votre manière très calme, très pédagogique d'expliquer les choses. Alors, je vous explique. Je vous appelle parce que j'ai un mari très malade. Il est à son 5e cancer. Je pense qu'on va l'hospitaliser dans la nuit ou demain matin pour lui faire une perfusion avec des antibiotiques. Mm-hmm. Les cancers, les 4 cancers précédents sont en rémission.
Mm-hmm.
Mais le cancer du rein s'aggrave. Il a perdu un rein. Mm-hmm. On ne l'a pas mis sous dialyse et pour l'instant, il ne mange plus. Il a une très forte température. Il ne veut entendre parler de rien. Il se nourrit de petits pots très, très caloriques. Un par jour, c'est à peu près. Il a perdu 15 kilos en l'espace de 20 jours.
Mmh. Donc, c'est les petits pots protéinés, hein, c'est ça, hein,
c'est pas, oui, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est le médecin qui lui donne, qui le suit.
Mmh.
Et donc, c'est un taiseux, mon mari. Il ne dit jamais qu'il a mal. Il ne dit jamais ce qu'il pense. Il fait tout en cachette. Il a toujours été comme ça.
D'accord.
Alors, moi, je suis handicapée. Je me déplace en déambulateur, je vais être opérée dans 8 jours.
Mmh.
Et donc, le médecin m'a mis de force à l'hôpital pour quelques jours et ensuite en maison de repos.
D'accord.
Alors, je ne sais pas, et le médecin l'a fait d'autorité, hein, je ne sais pas qui lui a téléphoné.
Ce qui est bien pour vous, parce que du coup, vous êtes dans un lieu de calme et de protection, ou au contraire,
oui,
ça vous a extrait de chez vous et ça vous a fait perdre vos repères?
Non, ça ne m'a pas fait perdre mes repères. Quand je suis rentrée de l'hôpital, quand j'ai vu le chirurgien, j'ai dit « Ouf, j'ai le droit d'être fatiguée, j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit d'être moi-même, je n'existe plus » et j'avais les idées noires en disant « je veux que ça cesse ». Alors quand je suis comme ça, j'ai des chansons qui reviennent, qui expriment mon état interne, si vous voulez. Le chant, j'exprime ma souffrance par le chant.
Mmh.
Et quelquefois, c'est le chant qui revient et qui me fait comprendre où j'en suis. Parce que je vais vous dire que j'ai fait un très long travail sur moi-même et que je m'en suis sortie. Je suis arrivée à retrouver un peu ma personnalité. Et là, je suis en train de la perdre. Alors, immédiatement, quand j'ai vu comment viraient les choses, que je n'arrivais pas à tenir, je suis retournée voir le psy qui m'a dit... je vais vous aider. Bon, c'est pas une nouvelle thérapie, mais c'est simplement accepter l'autre tel qu'il est.
Alors,
mais la seule chose que je m'a fait comprendre...
Pardonnez-moi, Nicole, ce que je ne comprends pas pour l'instant, c'est que est-ce la maladie de votre mari qui vous épuise ou est-ce que, compte tenu de sa maladie...
Non, c'est mon handicap.
C'est votre handicap, d'accord.
Oui, c'est mon handicap. Je sais que j'ai... comment. Le dossier médical porte lourde pathologie fonctionnelle. Donc, si vous voulez, j'ai quand même... ma névrose a quand même fait des dégâts avant. Mais si vous voulez, je suis arrivée à les surmonter. Je n'étais plus en souffrance.
D'accord.
Et là, c'est une souffrance mais jusqu'à ce que la vie s'arrête, quoi. J'ai vraiment les idées noires. C'est pour ça que j'ai pris la décision de retourner pour me faire aider, pour supporter ce qui m'arrive. Mais si vous voulez, je ne savais pas que ça allait s'aggraver et que l'état de mon mari et surtout ses comportements, pour vous dire, je ne reconnais pas l'homme de ma vie.
D'accord, parce que quels sont ses comportements?
Alors, ses comportements, c'est de me faire mal, de me blesser, de ne jamais me dire merci, jamais une tendresse, jamais un échange verbal. On n'a plus de vie sociale. Il n'y a que le silence en face de moi à table Et toute la journée, il est devant la télé ou couché. Mmh. Donc, je n'ai aucun rapport personnel. Et quand j'essaye d'aborder le problème, il met la télé à fond pour que je ne me parle pas, que je ne puisse pas l'interrompre dans ses... Alors, des fois, je lui dis, mais c'est la télé, c'est les pubs, là. Pourquoi tu ne me parles pas? Alors, il me répond, je n'ai pas envie.
D'accord. Et ça, c'est depuis longtemps, Nicole?
Non, depuis... ça s'est aggravé, comme je vous dis, ces jours-ci, depuis à peu près 6 mois. Et là, il en est au stade où il ne mange plus et où il a 42 fièvres ou 39. Ce soir, mon fils est venu me voir pour essayer de me dire demain. Je lui dis, je t'en supplie, appelle le médecin qui l'hospitalise pour le mettre sous perfusion avec les antibiotiques sous perfusion. Parce qu'il m'a répondu, je lui ai téléphoné tout à l'heure, il est dans la maison de campagne, il s'est isolé, il veut voir personne. Et donc, il veut gérer sa vie comme il l'a toujours gérée, c'est-à-dire la solitude, le silence et faire ce qu'il a envie. Mmh. Alors moi, je suis là au milieu. J'ai le cœur qui a terriblement mal. Je ne peux pas le montrer. Mon corps souffre terriblement parce que tout ça, ça m'en... Je passe des nuits entières sans dormir. Donc je me suis dit, je me fais aider. Alors que c'est vrai que quand je vais en thérapie une heure à peu près, il me garde à peu près une heure, je ressors gonflé.
Oui.
Voilà. Mais un psy, il ne dit jamais ce qu'il faut faire.
Non. Et non, parce que les conseillers ne sont pas les pires.
De ne pas accepter qu'on me dise tu ne mérites pas de vivre, c'est ce qu'il me dit. Oui. T'es un déchet. Si je suis malade, c'est de ta faute. Tu es responsable de mes analyses. Ça, le psy me dit non, il ne faut pas accepter ça. Oui. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quelle attitude. Moi, pour l'instant, j'ai l'attitude de soumission, d'écoute, je crois d'écoute. Mais par moments, j'explose intérieurement. Je dis bien, j'explose. Et ça se traduit, je voudrais que ça s'arrête.
Bien sûr, bien sûr. En fait, Nicole, alors d'abord, ce qui est très compliqué, c'est que votre mari, donc, il a subi un premier, un deuxième, un troisième cancer. Là, il est à un quatrième cancer. Ou cinquième cancer même, et un cancer, les autres ont été, j'allais dire, maîtrisés, et celui-là, non.
Il a des nodules, mais qui ne sont pas activés. Hein.
D'accord.
Il a passé le scanner avant-hier, et j'ai lu le scanner, le résultat. Les nodules ne sont pas acceptés, mais par contre, le rein, il y a du souci à se faire. Quoi.
Voilà.
Voilà, c'est ce que le scanner indique.
Alors souvent on dit du rein que c'est l'organe qui raconte la peur. Et on peut comprendre que votre mari se voit, enfin, il échappe à un drame, il en a un deuxième, il échappe à un deuxième, il en a un troisième. Et là il est sur le cinquième et le cinquième sur lequel tous les soucis se font. Donc c'est comme si...
C'est la seule fois où je l'ai vu pleurer.
Ah oui.
Quand il est rentré en me disant voilà, il me reste un rein et il est foutu. C'est la seule fois où je l'ai vu pleurer.
Mais bien sûr, c'est-à-dire que je crois que votre mari, ce qu'il en excuse nullement, hein, mais on va y venir ensuite, votre mari, il est dans la peur de ce qui est en train de lui arriver. Et sa peur est très forte, elle est très grande. Et, et comme il est peu expressif, qu'il contient tout, d'ailleurs, vous voyez, il contient, il a pleuré qu'une fois.
Même vis-à-vis des enfants, hein, il ne dit rien.
Bien sûr.
Mais mon fils m'a dit ce soir, on vient lui proposer un repas, il refuse.
Bien sûr, parce qu'il ne veut pas se montrer tel qu'il est, il veut pouvoir contenir, c'est pour ça aussi qu'il n'a pas de vie sociale, c'est qu'il ne veut pas qu'on voit la déchéance dans laquelle il est et qu'il perçoit lui de l'intérieur. Et puis vous voyez, il ne pleure pas, les reins c'est ce qui permet d'éliminer l'urine, c'est ce qui permet d'éliminer les liquides, les déchets. Eh bien, il n'y arrive pas à éliminer. Même son propre chagrin, sa propre expression de peur, il n'y arrive pas. Et il n'y a plus qu'une chose qui ressort, c'est sa peur en agressivité. Et du coup, c'est son agressivité contre vous.
Il a réduit, vous voulez me dire qu'il a réduit sa peur en agressivité?
C'est-à-dire que sa peur, comme il n'arrive pas à l'exprimer, comme il ne l'exprime pas tout simplement, parce qu'il est tellement normal, tellement légitime d'avoir peur de mourir, tellement légitime d'avoir peur de souffrir, eh bien, au lieu de ça, comme il reste un peu campé sur sa position dans une sorte de barricade intérieure, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de mots qui sortent, donc il garde tout. Et comme il garde tout, évidemment, il explose comme son rein qui ne marche plus, qui ne filtre plus, qui n'élimine plus. Et bien du coup, tout sort en agressivité, tout sort en violence. Et comme vous êtes évidemment la compagne de toujours, comme vous êtes celle qui ne va pas claquer la porte, comme vous êtes, et bien du coup, il tire à boulet rouge, en plus sur l'ambulance, puisque vous êtes vous-même fragilisée.
C'est ce que je lui ai dit, tu tires sur l'ambulance, parce que je lui ai dit, quand tu me vois, quand même, je lui ai dit, tu vois bien que je ne peux pas.
Bien sûr. Mais bien sûr, et c'est, en fait, vous savez, c'est ça qui est assez dramatique, c'est que les couples se font et se font des violences un peu tout au long de leur existence, par-ci, par-là. Et souvent, d'ailleurs, quand c'est passé, on n'y revient pas, on ne s'excuse pas, on n'en apprend rien. Résultat, on continue un bon bout de chemin, sans que pour autant on ait fait évoluer les choses, mais ça passe. Et puis après, il y a des événements. Alors à nouveau, ces tensions reviennent. Et quand on arrive au terme de sa vie, parce que la maladie nous y propulse, eh bien évidemment qu'à ce moment-là, on a très peur du gouffre qui s'ouvre devant nous. Et à ce moment-là, toutes les vieilles rancœurs, toutes les agressivités sortent et sortent dans n'importe quel sens, comme un pétard qui se serait allumé tout seul dans la grange et qui sort dans tous les sens. Et évidemment que c'est profondément injuste. Et en plus, tout ce qu'il vous dit, et c'est ça qui est toujours intéressant. Vous savez, quand les gens disent des choses, surtout des choses violentes, écoutez-les, non pas ce qu'ils sont en train de dire de vous, mais... Et ça, je ne le dis pas qu'à vous, je le dis à tous nos auditeurs. Écoutez ce que la personne qui parle, qui hurle, qui jette son venin, raconte d'elle-même. Quand il vous dit « tu es un oui. déchet », il parle de lui et la lecture qu'il a de lui-même. Il devient un déchet et ça le terrorise. Et on peut comprendre que ça le terrorise. Pour autant, vous ne devez pas en être le réceptacle. Et votre psy a raison, il y a des limites à cela. C'est-à-dire, tant que tu me parles comme ça... C'est-à-dire tant que vous quémandez la douceur, vous quémandez la tendresse, eh bien évidemment vous lui donnez la puissance de votre destruction, ce qui lui laisse à penser qu'il est puissant, alors qu'en réalité il est justement dans le désarroi de se sentir profondément impuissant parce qu'il se meurt.
Oui, d'accord. Mais alors je voulais vous dire ce que vous venez de me dire là. Oui. Je le comprends parce que j'ai fait un long travail sur moi-même et en même temps, quand on fait un travail sur soi-même, on travaille aussi le couple. Et plusieurs fois, le psy m'a dit « Vous avez beaucoup changé, mais votre mari aussi a changé au cours de votre thérapie. »
Bien sûr, parce
qu'on s'adapte. Cependant, il ne l'a jamais accepté parce que pour lui, et il a osé franchir la porte du cabinet du psy en lui disant le psy ne voulait pas le recevoir, il n'avait pas le droit. Et il l'a quand même reçu parce qu'il a forcé la porte. Et il a dit au psy, vous avez fait de ma femme de la chair à pâté.
Alors Nicole, on va poursuivre parce qu'on ne va pas rester sur cette chair à pâté. Donc je vous prie de nous excuser un instant puisqu'on va avoir un petit flash info. Et oui. Je vous reprendrai tout de suite. Mais effectivement, c'est intéressant qu'il ait quand même forcé la porte du cabinet oui. de psy. Parce que forçant la porte du cabinet de psy, il est quand même rentré dans ce cabinet pour lequel il ne veut pas rentrer pour lui-même, pour ne pas se remettre en question. Mais il y est allé, bien sûr, pour accuser les foules. Mais quand même, c'est intéressant.
D'accord.
Il est allé de ce côté-là. Donc, je vous retrouve tout de suite après le Flash Info, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite, Nicole.
Elle accompagne vos nuits. La Libre Antenne. Catherine Blanc sur Europe 1.
Toujours le 39-21 pour me joindre, ou si vous voulez nous envoyer des SMS, eh bien c'est le 739-21 suivi du mot « nuit » en majuscule et de votre message.
Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1.
Et nous retrouvons Nicole. Nicole, vous êtes toujours là ?
Oui, je vous écoute.
Alors, nous terminions sur le fait que vous disiez que vous avez fait donc dans votre vie un certain chemin de travail avec un psy et que cela vous a fait évoluer, que par essence, votre mari s'est calé sur une femme qui était elle-même en mouvement, en évolution, ce qui l'a fait aussi évoluer, bien évidemment. Oui. C'est le cas aussi, vous savez, des...
J'ai fait une analyse. C'est peut-être un peu différent.
Oui, mais même si ça avait été...
Thérapie normale.
Bien sûr, mais c'est un travail différent, en effet. Mais oui. Le résultat, de toute façon, le but est le même, c'est-à-dire de faire évoluer
oui,
un individu.
Compris.
Et de fait, ça fait évoluer son environnement, puisque en fait, les mécanismes relationnels sont obligés de changer, puisqu'à partir du moment où vous changez votre position, l'autre ne peut plus jouer la même partition, puisque vous-même, vous avez changé de position. Donc, votre mari, un jour, c'est là où nous en étions, est venu à forcer un peu la porte du cabinet de votre psy pour engueuler, gronder votre thérapeute, en lui disant qu'on vous avait transformé, c'était quoi ?
En chair à pâté,
voilà. Donc c'est intéressant parce que d'abord, comme je le disais juste avant que nous devions interrompre, c'est intéressant parce qu'il est donc venu dans un cabinet de psy, ce fut une bonne excuse pour voir ce qui se passait de ce côté-là. Et puis aussi, ça révèle combien, d'une certaine manière, il estimait que vous étiez assez... d'ailleurs, tout à l'heure, vous employiez le terme « soumise », assez malléable pour être la chair à pâté de l'un ou de l'autre. Donc, perdant le pouvoir sur vous, ça devenait le psy qui a fait de vous de la chair à pâté. Alors justement, venons-en à cette histoire-là de soumission, Nicole. Votre psy vous pose des limites, vous aide à poser des limites, vous dit qu'il y a des limites à poser, et assez naturellement, vous êtes plutôt dans une certaine soumission pour attendre un peu son secours, sa compassion, ce qui ne marche de toute évidence pas du tout. Alors évidemment, on peut se poser la question, pourquoi, alors que ça ne marche pas, ma position est plutôt la soumission, jusqu'à ce qu'il réalise l'énormité de son attitude, ce qui risque fort de ne pas arriver, puisque votre mari est tout à sa peur.
Oui.
C'est ça qui est important.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi on s'acharne ? Aimer quelqu'un, vous savez, Nicole, ce n'est pas le laisser devenir monstrueux.
Oui. Donc, alors, si vous voulez, je comprends ce que vous me dites, parce que je comprends son agressivité à travers le travail que j'ai fait sur moi-même. Alors, il est inutile d'essayer de lui expliquer parce qu'on ne change pas l'autre avec des mots. Je sais très bien que le désir de l'autre, il change s'il doit changer, s'il prend conscience du mal qu'il fait.
Mais même seulement s'il n'est plus possible de faire du mal. Il n'y a pas que la prise de conscience. La prise de conscience permet justement à un être de réviser son mécanisme. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Par exemple, si je croise un pervers, le pervers n'a de pouvoir avec sa perversion que si moi, je lui prête, je lui laisse la possibilité par mes propres fragilités de rentrer dans ce type de relation. Mais si je lui oppose un stop, parce que justement j'y vois clair, il ne peut pas agir ainsi. Vous comprenez ? C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que votre mari était un pervers. Hein, votre mari, il est terrorisé.
Je le pense quelquefois.
Bon, écoutez, on l'a tous un petit peu en tout cas, parce que ça fait partie de nos mécanismes de vouloir manipuler l'autre comme étant un objet. Et la réalité, c'est qu'il nous faut nous rendre à l'évidence que nous sommes chacun des sujets, donc chacun acteur de notre vie. Sauf que là, Nicole, là où vous péchez, vous, c'est cette propension que vous avez perdant vos repères et tout à votre déprime, ce que l'on comprend bien, et dépression, ce que l'on comprend parfaitement quand on sent son corps faiblir, parce que si votre mari a peur, vous avez peur vous aussi, eh bien, on comprend bien que vous attendez le secours et que pour attendre le secours, vous êtes plutôt en position basse, en position de soumission, en position d'attente, du coup, en position de le culpabiliser pour qu'il réalise et pour qu'il réagisse, mais en réalité, ça ne fait que nourrir son agressivité. Ce n'est donc pas une bonne méthode.
Alors, qu'est-ce que vous me donnez comme conseil ?
Alors, évidemment, vous savez qu'on n'aime pas trop donner des conseils, mais parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais de toute façon, c'est dans une voie, vous n'allez pas passer de la soumission à l'agressivité, mais c'est au non. Non, on n'est pas obligé d'être agressif. Non, on peut dire, tu ne me parles pas comme ça. Tu ne veux pas me parler ? Je vais aller manger ailleurs. Je vais aller manger dans l'autre
pièce. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais il se moque de moi.
Eh bien, vous le laissez se moquer.
Il se moque de moi, il rit, et puis ça ne le fait pas bouger du tout.
C'est pas grave.
Il me dit, mais tu peux t'en aller où tu voudras, quand tu auras faim, tu reviendras. Ça y est, il a le dessus. Hein.
Oui, mais non, mais il n'est pas question que vous partiez, que vous vous priviez de manger. Ça serait une autre position basse.
J'ai essayé de faire ça. Je pense que c'est pour ça que le chirurgien me garde à l'hôpital et m'envoie en maison de repos. Parce qu'il a très bien compris quand il m'a dit comment ça se passe chez vous. Bon, je lui ai parlé de mon mari malade, mais je n'ai pas compris pourquoi en 2 minutes il m'a imposé l'hôpital et la maison de repos. Je n'ai pas compris.
Oui, ben c'est parce que, et bien sûr, il sent votre fragilité, votre difficulté à vous protéger. Du coup, il prend une position de protection lui-même. Mais vous voyez que le problème, c'est que pour être protégé, eh bien, il faut que vous soyez en souffrance et les autres vous protègent. Il faut que vous arriviez, je sais combien, mon Dieu, c'est difficile, et certainement d'autant plus quand on est et fragilisé physiquement, ce qui est votre cas, et en plus complètement déprimé, voire dépressive, vous n'arrivez pas à trouver le ressort pour avoir assez d'élan pour dire, si ce n'est avec toi, si ce n'est manger avec toi, je peux manger toute seule, si c'est tu ne veux pas parler, j'écoute la radio, de la musique et je chante, et qu'il se moque pas, ça n'a aucune importance. Il ne faut pas donner d'importance à cette position qui est une position moqueuse et du coup sadique. Vous voyez, en fait, le sadisme ne marche qu'avec le masochisme. Plus on cultive, on a tous une part de sadisme, on a tous une part de masochisme, de perversion, etc. Mais plus vous allez ouvrir le champ de vos possibles en termes de masochisme, plus vous lui prêtez, vous lui donnez main forte dans son positionnement de sadisme. Et dire « je comprends ton agressivité, tout ce que tu dis de moi parle de toi », parce que c'est comme ça, les gens, quand ils ont des choses à dire de méchant, ils ne font qu'évoquer ce qu'ils racontent d'eux-mêmes, la lecture qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc « je comprends pourquoi tu ne peux pas parler parce que tu ne sais pas, tu te moques parce que tu me trouves un déchet parce que tu te sens un déchet, je comprends ta peine, je comprends ta colère, je comprends ta peur, mais je n'accepte pas d'être ton réceptacle de ton agressivité et je vais à côté, je vais manger, je vais écouter la radio, je vais téléphoner à X ou Y, il faut que vous ayez et même si vous dites bah vas-y, tu reviendras quand on aura marre, vous reviendrez si vous avez un truc à venir chercher, mais pas parce que vous serez en manque de lui, vous reviendrez parce que vous avez un projet pour vous-même. C'est très important. Alors évidemment, je ne vois pas la situation, tout ça est à modérer par la situation, mais en tout cas la ligne que je vous invite à explorer, et je pense que ça rejoint ce que votre psy vous disait, c'est de poser le stop. Si vous ne posez pas le stop,
oui,
automatiquement...
je l'ai déjà dit, le stop, je ne te permets pas, je ne te
oui,
permets
mais il ne faut
plus.
Pas que le dire, il faut l'agir.
Oui, alors vous savez, quand je suis rentrée de l'hôpital l'autre jour pour les visites de pré-chirurgie, je suis rentrée à la maison et je me suis surprise parce que bon, il m'a demandé alors qu'est-ce qu'il t'a dit, etc. J'ai dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, je me repose, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être malade et à partir d'aujourd'hui, je me lèverai si j'ai pas mal, je ferai si j'en ai envie, je ne veux plus faire pour toi et je ne suis pas responsable de tes analyses. Donc à partir d'aujourd'hui, tu ne me demandes plus rien. Et j'ai tenu bon, mais ça n'a pas duré parce que la violence verbale est arrivée et donc, pour lui, être fragile, aller en thérapie, faire un travail sur soi, c'est être fou.
Oui, mais comme beaucoup, et sans doute sa génération en particulier, bien sûr.
Donc son ultime insulte,
c'est votre folie.
C'est de me dire que je finirai chez les fous. Et ça, le psy m'a dit, ne lui permettez pas de dire ça, c'est inhumain. On ne dit pas ça à une personne qui va voir un
psy. Au contraire.
Parce qu'elle en a besoin.
Bien sûr.
Vous ne finirez pas chez les fous, je vous en assure. Et moi, si vous voulez ça, ça m'a tuée. Vous me croirez si vous voulez. J'ai fait un AVC dans la nuit qui a suivi.
Oui, mais je comprends. Et vous comprenez que, justement, vos symptômes sont une façon de le faire taire, puisque les mots MOTS n'y suffisent pas. Mmh. Du coup, votre inconscient et profite de la fragilité de votre corps pour, avec des mots MAUX, le mettre face au risque de vous perdre, enfin qu'il vous perde, et que du coup, vous perdant, il se retrouvera seul avec sa peur. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas que vous alliez dans une soumission qui amène une autodestruction, mais justement, il faut que vous puissiez régulièrement, de façon métronomique, repositionner sans agressivité, il faut le faire vraiment sans agressivité, repositionner à chaque fois le stop, le je ne suis pas disponible, je comprends ta peur, j'en suis désolée, mais je ne peux rien. Moi, je suis en train de gérer la mienne. Je suis en train de gérer mes symptômes. Voilà, Nicole.
Merci.
Je vous en prie, je vous souhaite beaucoup de courage. Et oui. Encore une fois, c'est pas facile de faire face à l'autre, mais c'est encore moins facile de faire face à notre inconscient qui nous pousse souvent pas du bon côté.
Oui, moi, si vous voulez, mon inconscient, il me pousse du côté, je vous le dis, bon, parce que j'ai un engagement religieux, c'est aimer au-delà de tout. Oui, mais... Et aimer au-delà de tout, ça ne veut pas dire se perdre.
Bien sûr.
Ça veut dire aime-toi d'abord pour aimer les autres. Sinon, c'est faux. Donc, c'est ça mon problème. Mon problème, c'est l'éducation que j'ai reçue. C'est aimer au-delà de tout. Et si on lit certains textes religieux, c'est aimer en s'oubliant totalement, quoi.
Oui, mais ça, c'est encore une lecture. Aimer en s'oubliant totalement, c'est une lecture qui sert, j'allais dire, la tyrannie. Il faut aimer, c'est aussi protéger l'autre de sa propre tyrannie. Aimer, ça, c'est aussi... Le recadrer plutôt que de le rendre un meurtrier ou un tyran. Quand on aime les gens, on ne les laisse pas faire n'importe quoi. Une maman, si elle a un enfant qui est capricieux, très capricieux, super capricieux, si elle le laisse faire, parce que comme elle aime, elle lui achète le premier paquet de bonbons, le deuxième, le troisième, eh bien cet enfant ne pourra pas vivre correctement puisqu'il ne sera que caprice. Il ne pourra pas accepter d'attendre, il ne pourra pas accepter de partager. Il sera totalement associable. Une maman qui aime son enfant, elle lui dit non, tu ne manges pas de bonbons. Voilà.
Merci de vos conseils.
Je vous en
prie. Ça va me rassurer, me réconforter et m'enlever les données négatives de se dire vol au secours de tout le monde, etc. Je pense que ça fait partie aussi de la personnalité profonde qui est faussée à l'origine, quoi,
bien
finalement.
Sûr. Bah, c'est pas à l'origine, on a tous une origine, mais en tout cas, pour aider l'autre, c'est comme dans les avions, on met d'abord son masque à oxygène avant de mettre le masque à son voisin ou à son enfant.
D'accord.
Protégez-vous.
Oui, c'est une belle image que je vais noter tout de suite.
Très bien, Nicole.
Merci, Catherine.
Je vous souhaite une très, très bonne soirée.
Et merci infiniment.
Je vous en prie. Au revoir, Nicole.